Mega News, le journal.
Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition de ce dimanche 8 octobre sur votre radio de proximité qui couvre la région de Grand Lac. Vous êtes nombreux en train de nous suivre à partir des Kapingous dans le territoire de Moba, la frontière avec la Zambie. Nous sommes Denga News et nous émettons à partir de Kalemie, en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Tanganyika. La prévision météo indique 31 degrés de température, un dimanche toujours partiellement couvert des nuages. Je m'appelle Amoury Ali Kabine Alexandre, je suis à la présentation de cette édition dominicale. Ignace Kiumbu et Fabien Kibangula sont de l'autre côté de la baie vitrée. Et tout de suite, le sommaire de cette édition. Kalemie, l'Assemblée provinciale du Tanganyika a confirmé ce samedi la convocation d'une plénière pour la semaine qui commence. Selon les communiqués signés par le premier secrétaire du bureau d'âge, la convocation de cette plénière fait suite au nouveau télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, adressé au bureau d'âge. Monsieur Daniel Asselou Okito a invité le dit bureau d'organiser l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, et cela en vue de permettre l'ouverture de la session de septembre 2022. Vous aurez ample détail dans cette édition du journal. Toujours au Tanganyika, le gouvernement de Madame Julie Ngungwa comme gouverneur de la province a totalisé ce samedi 100 jours depuis son investiture. Selon plusieurs analystes, le bilan reste mitigé et la population interrogée a sollicité plus d'actions afin d'amorcer la stabilisation de la province sur le plan sécuritaire et social, enfin de pallier à la précarité de la vie de la population du Tanganyika. Denga News a promené son micro dans différents quartiers de la ville de Kalemie. Vous suivrez les réactions des uns et des autres. Au Maniema, le Conseil supérieur de la magistrature a organisé ce vendredi une réunion à marge des préparatifs du concours de magistrats prévu aujourd'hui dimanche. Cette réunion avait pour objectif d'appeler les candidats à ce concours au professionnalisme et à éviter de tomber dans le piège des antivaleurs. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je vous le disais au sommaire, le gouvernement de Madame Julie Ngungwa Mwayuma comme gouverneur de la province a totalisé ses samedis 100 jours depuis son investiture. Selon plusieurs analystes, le bilan reste mitigé et la population interrogée a sollicité plus d'actions afin d'amorcer la stabilisation de la province sur le plan sécuritaire et social en vue de pallier à la précarité de la vie de la population du Tanganyika. Ndenga News a promené son micro dans différents quartiers de la ville de Kalemie. Je vous propose de suivre les avis des habitants de Kalemie au micro de Trésor Tiboibois.
Depuis que Madame Julie Ngungwa, gouverneure de la province du Tanganyika, elle a été investie le 1er juillet jusqu'au 8 octobre, elle a totalisé 100 jours. Alors, que retenir de ces 100 jours? Quelles ont été les actions phares de ce gouvernement, Madame Julie Ngungwa, pendant ces 100 jours? À mon avis, je pense qu'ils sont encore au débit. Il y a certains ministres ou certains ministères qui ont montré les signaux, mais nous allons voir par rapport à la suite des événements. Mais quant au gouvernement, Madame le gouverneur, je pense que rien n'a encore été fait en dehors des actes de nomination qu'elle signe, mais au niveau des faits concrets, je ne vois pas. C'est vrai que dernièrement, ça a été inauguré le lancement des travaux de forage de puits dans les environs de Kalemie.
Le bilan existe, bien que n'est pas encore satisfaisant, mais tout d'abord, le bilan existe. Il y a eu beaucoup de dégâts. Toutes les couches ont presque manifesté, donc il y a eu beaucoup de troubles. Donc il a fallu un peu que la dame puisse d'abord prendre un élan et stabiliser la province. Vraiment, le développement veut vraiment la paix, veut la tranquillité.
Concernant les bilans des 100 jours de madame le gouverneur Julie Ngungwa, absolument, elle a échoué à sa mission. Vous savez quoi? Nous, on croyait que mettre une dame à la tête de la province, mais aujourd'hui, elle a échoué à sa mission. Vous savez, ceux-là qui sont là aujourd'hui à la tête de la province, elles sont là pour leur jouissance, je peux dire, pour les autorités de la province, elles sont là pour leur jouissance. Ce que je peux dire comme quelques défiances qui a poussé à ce que madame la gouverneure puisse échouer. Première des choses, vous voyez d'abord la vie sociale actuelle pour les Tanganyikais. Je peux dire un seau de maïs qu'on a cité à 20 000 francs. Aujourd'hui, nous l'achetons à 40 000, 42 000.
Restons toujours dans la province du Tanganyika. L'Assemblée provinciale a confirmé ce samedi la convocation d'une plénière pour la semaine qui commence. Selon le communiqué signé par le premier secrétaire du bureau d'âge, la convocation de cette plénière fait suite au nouveau télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, adressé au bureau d'âge. Monsieur Daniel Asselou Okito a invité le dit bureau à organiser l'élection du du nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika et cela en vue de permettre l'ouverture de la session de septembre 2022. Plusieurs analystes politiques estiment que la décision de M. Daniel Asselo, le VPM, crée la cacophonie car il fallait attendre la décision des instances judiciaires selon Maître Bavon Kalindé. Il est analyste politique et juridique dans ses propos recueillis par François Ototo.
Oui, nous venons de suivre la décision du ministre de l'Intérieur, M. Asselo, qui instruit que le bureau d'âge puisse convoquer une plénière afin d'organiser les élections du président de l'Assemblée provinciale. Eh bien, comme nous l'avons dit l'autre fois, il s'agit une fois de plus d'une cacophonie, une confusion qui va amener encore une crise au niveau de l'Assemblée provinciale. Nous avions dit qu'il fallait des négociations politiques qu'il y ait pour trouver une solution au niveau de la dite Assemblée ou à défaut attendre la décision du Conseil d'État parce qu'il semble que le Conseil d'État était saisi. Quant à ceux, bon, maintenant, ceci prouve effectivement que pour le ministre Asselo, qui représente le gouvernement central, le bureau de l'Assemblée provinciale n'existe pas. Pour le gouvernement provincial, le bureau qui existe, c'est celui de Kiboum. Voilà au moins la confusion maintenant dans laquelle nous allons nous trouver. Au jour d'aujourd'hui, l'ancien président d'âge, du bureau d'âge, est ministre dans le gouvernement provincial. Va-t-il abandonner son poste pour venir présider? Voilà, c'est ça que nous disons, que nous allons tomber dans une cacophonie qui n'a pas de nom. Seules les négociations politiques ou la décision du Conseil d'État peut arriver à dénouer la situation.
Nous quittons le domaine politique pour parler éducation précisément au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Plusieurs chefs d'établissement du secteur éducationnel Tanganyika 1 sont frappés par de suspensions. Monsieur Grégory Baloma, vous êtes directeur provincial de l'EPST Tanganyika 1. Qu'est-ce que justifie votre décision de suspendre certains chefs d'établissement? Avez-vous constaté un laisser-aller?
Au niveau secondaire, il faut dire qu'il y a observance des instructions officielles qui permettent au bon fonctionnement de notre système éducatif. Or, ici chez nous, dans la province de l'EPST Tanganyika 1, sans flatterie ni gloriole, je vous dis qu'il y a eu un très mauvais départ. Il y a eu un laisser-aller. Chacun s'est réveillé, chaque chef d'établissement avait la latitude de faire n'importe quoi. Il n'y avait pas l'observance des instructions officielles. Or, vous savez pertinemment qu'une institution sans discipline n'est qu'un moulin sans vent. Et à ce titre, puisque nous sommes assignés au redressement de notre système éducatif, on ne peut pas faire de l'omelette sans toutefois casser les œufs. D'où nous sommes permanents sur le terrain. Quand nous trouvons que les chefs d'établissement n'observent pas, ne respectent pas les dispositions officielles qui régissent notre système d'enseignement en RDGO et plus particulièrement dans notre province éducationnelle, il n'y a pas autre chose. On recourt aux sanctions. Il faut sanctionner. Et chez nous, ce n'était pas 4. Pour votre information, ils sont nombre de 5. Puisque j'ai oublié de signaler, d'épingler aussi le cas de la directrice de l'EP Katharina Belli, des écoles professionnelles catholiques. C'est là qui brillait, qui excellait dans, sans pyromanie, sans pareil, avec la vente des uniformes, monnayage des inscriptions, 15 000, 20 000. Donc on ne pouvait pas rester insensible, il fallait prendre des mesures coercitives.
Merci Monsieur Grégory Baloma. Je rappelle que vous êtes directeur provincial de l'EPST Tanganyika 1 et vous étiez au micro de notre confrère Augustin Moussambo Mukalai.
Branchez-vous sur Ndenga News sur 104.0 MHz, la référence de l'information.
Mbujimayi, 4 personnes de nationalité indienne ont été arrêtées depuis le début du week-end par la division provinciale des mines du Kasaï oriental. Selon les témoins, ces ressortissants indiens sont reprochés d'achat illégal du diamant dans la zone. Ils ont été présentés au gouverneur des provinces par le service des tutelles pour des fins utiles, nous dit Jérôme Batangé.
Ce sont des indiens qu'on a trouvés dans une maison en train d'acheter les diamants du côté Stade Kachala Bonzola, juste à côté de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. A indiqué Trésor Mulunda, chef de division provinciale des mines, lors de la présentation de ses présumés acheteurs. Notre source indique que le coup de filet a été réalisé grâce au concours des agents du Centre d'évaluation et d'expertise des substances minérales et semi-minérales, CEEC. Le service de l'antifraude, le parquet de Mbujimayi et la police nationale congolaise a aidé à mettre la main sur ces groupes d'expatriés. Ces sujets indiens auraient été surpris dans une maison des particuliers avec des outils d'achat des diamants, notamment les balances ordonnances et autres accessoires. À en croire les chefs de division provinciale des mines du Kassai Oriental, les faits reprochés à ces quatre sujets indiens pèchent contre les codes miniers tels que révisés en 2018 et nécessitent des sanctions exemplaires pour décourager les réfractaires. Comme nous travaillons dans la vision des chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui lutte contre la fraude dans les secteurs des mines ensemble avec Madame les ministres nationales Antoinette Samba Kalambayi, qui sont contre la fraude minière. C'est ainsi que nous avons mis la main sur ces Indiens qui étaient en train d'acheter les diamants dans une maison, a-t-il laissé entendre.
C'était un reportage de notre correspondant à Mbujimayi, Emmanuel Kalonji, rendu par Jérôme Batangué. Aujourd'hui, c'est dimanche et c'est le jour des passations des concours de magistrats dans plusieurs provinces. À Kindu, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature a organisé ce vendredi une réunion à marge des préparatifs du concours. Cette réunion avait pour objectif d'appeler les candidats à ces concours au professionnalisme et à éviter de tomber dans le piège des antivaleurs. Comme a indiqué le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, M. Albert Kingondila Ndakoulou.
Nous sommes venus ici pour superviser le concours de recrutement des nouveaux magistrats. Nous sommes venus expliquer aux candidats. D'abord, il y avait des communications du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Nous leur avons parlé de cela. Deuxièmement, nous avons également expliqué à l'attention des candidats les règlements d'ordre de l'organisation du concours. Il y a plus ou moins 600 candidats. Bon, en gros, à travers la République, il y a plus ou moins 40 000 candidats. Ce qui fait que pour les gens, il y aura 30% des femmes maintenant seront retenues. Pour les hommes, c'est 70%. Donc, le nombre total qui sera retenu, c'est de 3 000.
Le représentant du Conseil supérieur de la magistrature était au micro d'Aridja Saïd Ruth, notre correspondant dans le Maniema. Avant de finir cette édition, nous nous rendons à Goma, dans le Nord Kivu, pour parler de la paralysie ce vendredi des activités sur la route Goma-Sake suite à la manifestation de la population. Cette dernière a fustiger la spoliation de sa concession par l'Institut National Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN. Les sources sur place ont indiqué qu'une personne serait tuée et plusieurs blessés enregistrés suite à cette tension. Germain Tchikourou, nous vous joignons depuis Zulu. C'est dans la périphérie de la ville de Goma. La situation s'est calmée ce matin, bien sûr, mais avec vous, revenons sur la cause de cette tension.
Les villages de Zulu et de Mubambiro, situés à 15 km de la ville de Goma, dans les territoires de Masisi en province du Nord Kivu, se sont réveillés sous une vive tension. C'est la suite à l'interdiction du gouvernement militaire du Nord Kivu de l'occupation des villages de Nzulo par la population qui se dit être autochtone. Ces habitants en colère, munis de fouets et de machettes, ont barricadé la route Mubambiro Kasenges Lac Vert, contestant la décision du gouvernement militaire. Selon eux, l'acte du lieutenant général Constant Dima Kongba serait influencé par l'ICCN et Emmanuel Demerode, directeur du parc national de Virunga. Les chauffeurs entre police, manifestants FRDC et Cougarde ont perduré, entraînant la suspension de toute circulation des véhicules. 4 heures durant, les véhicules en destination de Goma, Masisi et Minova au Sud-Kivu ont été empêchés de poursuivre chacun sa direction par les jeunes en colère. La répression des manifestants par les gardes de parc a entraîné et quelques blessés. La population de Nzulo tient à occuper sa concession malgré les menaces de l'ICCN.
Sérieusement, avec cette approche policière que l'ICCN a mis de l'avant, ça risque de dégénérer parce que la population risquerait aussi de se prendre en charge comme les autorités ne veulent pas se pencher sur cette question, c'est-à-dire retirer l'arrêté du gouverneur.
Pour Shadraki Amani, élu provincial de Masisi, le gouvernement congolais doit faire son mieux pour résoudre ces conflits fonciers entre la population de Nzulo et l'ICCN. Il condamne également l'usage d'armes à feu par les gardes des parcs lors des répressions des manifestants. La décision d'installer une unité conjointe FADC, police et cogarde ICCN remonte de l'arrêté du gouverneur militaire interdisait toute occupation de la population de Nzulo. La concession déclarait être du parc national de Virunga.
Merci Germain Tchikourou, notre correspondant dans le Nord Kivu. Et c'est avec votre reportage que nous clôturons cette grande édition du dimanche 8 octobre sur la radio de proximité. Merci à l'équipe rédactionnelle et à vous tous qui ne cessez de nous suivre sur la 104.0 MHz et aussi via le radio partenaire. Votre sympathique attention est vivement appréciée. Les informations sont en continu sur le www.radiondinganews.net et à très bientôt avec le même réel plaisir, car la vie, c'est aussi le bonheur de la vie et du bon vent du lac Tanganyika. Vous connaissez le lac Tanganyika? Il est le plus poissonneux. Venez le visiter si vous avez l'occasion et ça sera sous un ciel partiellement couvert des nuages. Je vous dédie cette chanson du dimanche. Au revoir.
Nakupenda baby, nakupenda wewe, tania mtima wangu mama, uko we mwenyewe. Niko mbali na wewe, siko radhi ni kukose wewe. Niko tayari wanipige mawe, ntasubiri niwe mimi awe. Ushanifanya niwe mentor, mentor. Hata chakula sikitamani, I wish ungekuwepo, epo. Cheze cheze wote wangu mwandani. Ushanifanya niwe mentor, mentor. Hata chakula sikitamani, I wish ungekuwepo. Usilie mama, nitakuona tena. Tasubiri, usikate tamaa. Najua sio mapema mimi. Tasubiri, usilie mama, nitakuona tena. Tasubiri, usikate tamaa. Najua sio mapema mimi. Tasubiri.
Mapenzi, 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 mapenzi.